Il est 2h du matin à Tel Aviv, 18h à Washington, 23h temps universel, et c'est Radio France Internationale que vous écoutez. Les dernières infos du monde sur la radio du monde, Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Et bonsoir mon cher Zéphirin Quadio et bonne nuit à vous. Le principal titre, ça reste le conflit entre l'Iran et Israël. L'État hébreu déplore 24 morts depuis le déclenchement vendredi. Téhéran parle de son côté de 224 victimes. La pression ne redescend pas, les échanges croisés de missiles se poursuivent. L'Iran promet de frapper jusqu'à l'aube et sans interruption. Donald Trump annonce pour sa part le déploiement de forces militaires dans la région et appelle la population de Téhéran à évacuer immédiatement. La capitale iranienne où des embouteillages monstres continuent de se former. Ce lundi, Israël a frappé la télévision d'État ainsi qu'un hôpital à Kermanshah dans l'ouest. Des secouristes tués à Téhéran où la population vit dans la peur. On y sera dans ce journal. Et puis on reviendra ici en France sur un rapport publié ce lundi. Rapport sur la contrefaçon. On y apprend que les produits contrefaits sont l'activité la plus rentable pour les organisations criminelles.
RFI.
Pas d'accalmie en vue au Moyen-Orient. Au quatrième jour de la guerre, Israël a frappé sans relâche plusieurs cibles militaires, nucléaires, mais aussi un hôpital et la télévision d'État. Des crimes de guerre, dénonce Téhéran, la capitale où les systèmes de défense ont été activés à un niveau élevé. En Israël, les ripostes iraniennes sont redoutées. Elles ont déjà fait 24 morts depuis vendredi. Alice Froussard, les Israéliens s'apprêtent à passer une nouvelle nuit d'angoisse après la nouvelle menace de Téhéran.
Des missiles sans interruption jusqu'à l'aube, c'est en tout cas ce qu'a annoncé la télévision d'État iranienne. Des sirènes ont déjà retenti dans le nord du pays et l'aviation de l'armée israélienne se dit prête à intervenir. À Téhéran, ce sont 3 secouristes qui ont été tués dans de nouvelles frappes israéliennes alors qu'ils ne faisaient que leur métier, sauver des victimes des décombres au nord-ouest de la capitale. Cet incident n'est pas seulement un crime contre le droit humanitaire international, c'est aussi une atteinte manifeste à l'humanité et à la morale, condamne le Croissant-Rouge iranien dans un communiqué. Cet après-midi déjà, c'était un hôpital qui était visé, ainsi que la télévision publique iranienne, alors même qu'Israël affirme viser des structures militaires ou nucléaires, une attaque hautement symbolique qui visait clairement à déstabiliser le régime des Mollahs et ses relais de propagande. La chaîne de télévision iranienne a émis à nouveau quelques minutes après et l'Iran a menacé en retour de viser 2 chaînes de télévision israélienne, la chaîne 12 et la chaîne 14. Reste à savoir quelles sont les intentions réelles des uns et des autres, mais Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a d'ores et déjà prévenu « Nous changerons la face du Moyen-Orient ».
Et j'ajoute le message de Benjamin Netanyahou au peuple iranien. Il appelle à se lever contre la tyrannie du régime des Mollahs. Il avait déjà appelé à la révolte samedi, qualifiant alors le régime de maléfique et oppressif. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une habitante de Téhéran. Elle est effrayée à l'idée de sortir de chez elle. Le projet de quitter la ville, elle y pense, mais pas tout de suite, c'est trop dangereux. Par souci d'anonymat, sa voix a été modifiée à sa demande.
I have seen and heard some of the effects of the bombs sounds.
J'ai vu et entendu les effets de certaines bombes, les bruits, les lumières. C'est très loin d'ici, mais nous avons pu voir les flammes du réservoir de pétrole de Charanz. La détonation était très forte. Nous avons envisagé de quitter la ville, mais pas tout de suite. Je ne me sens pas en sécurité au moment où tout le monde fuit la ville. Il y avait beaucoup d'embouteillages, des gens tombaient en panne d'essence. Je ne me sentirais pas en sécurité d'être dans une voiture plutôt que chez moi. Aujourd'hui, cela paraît plus vite que ces derniers jours. Je suis restée à la maison depuis que l'attaque a commencé. Je ne suis pas sortie. Mais d'après ce que je vois de mes fenêtres, tout est beaucoup plus vide.
Voilà pour le témoignage de cette habitante de Téhéran, jointe par Nicolas Falaise. Lors d'un appel téléphonique, les chefs des diplomaties françaises, allemandes et britanniques ont exhorté leur homologue iranien à revenir à la table des négociations, appelant aussi à épargner les intérêts occidentaux dans la région. Donald Trump, lui, depuis le sommet du G7, assure qu'un accord va être signé dès son départ du sommet. Dans le même temps, l'armée américaine envoie un porte-avions sur la zone et indique qu'il déployait des moyens militaires supplémentaires pour renforcer son dispositif défensif. Outre sa proposition de médiation, c'est le grand absent du conflit au Moyen-Orient, Vladimir Poutine, qui a néanmoins appelé avec le président turc à la fin des hostilités. Et si les relations entre Moscou et Washington se sont réchauffées depuis le retour de Donald Trump, plusieurs appels entre les deux dirigeants, des invitations mutuelles à se rendre visite, un ralentissement semble s'enclencher. En tout cas, la Russie a affirmé que les États-Unis avaient annulé la prochaine réunion bilatérale concernant la normalisation de leur mission diplomatique. À Moscou, Anis El-Jabri.
On avait déjà senti le rafraîchissement de l'enthousiasme à Moscou mercredi dernier. Le porte-parole du Kremlin affirmait alors « Il y a beaucoup d'obstacles dans les relations bilatérales. Il est peu probable que l'on puisse espérer des résultats rapides. » Ce lundi, certains dans les cercles du pouvoir affirmaient déjà après le communiqué de la diplomatie russe « Le spectacle est terminé ». Le texte est en tout cas bref et neutre. La porte-parole y affirme « La prochaine réunion bilatérale a été annulée à l'initiative des négociateurs américains. » Avant d'ajouter, nous espérons que cette pause ne sera pas trop longue. La Russie est en tout cas très intéressée par le travail sur ce qu'elle appelle des irritants de la relation bilatérale, soit celui sur le fonctionnement de ses missions diplomatiques aux États-Unis. Ils ont déjà valu deux cycles entiers de négociations à Istanbul sans aucune communication à l'issue. Ils se sont déroulés après plusieurs années de multiples expulsions croisées de diplomates et de difficultés de fonctionnement des ambassades respectives. Cet épisode se déroule en tout cas alors que l'implication de Donald Trump dans un très éventuel accord de fin de conflit semble s'estomper. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
La Russie qui a rendu à l'Ukraine plus de 1200 nouvelles dépouilles, portant à plus de 6000 les corps récupérés par Kiev en une semaine, dans ce qui est la dernière étape de l'accord conclu à Istanbul. Kiev qui craint de se faire oublier avec la guerre entre l'Iran et Israël. En escale à Vienne, en Autriche, avant de se rendre au G7, le président Zelensky a évoqué l'achat de matériel militaire américain, un sujet qu'il espère évoquer avec Donald Trump en marge du sommet. Et puis nous parlions à l'instant des relations russo-américaines qui se dégradent. En revanche, celles entre Washington et Londres sont au beau fixe. Un accord commercial annoncé le mois dernier vient d'être signé par le président américain. Le texte porte sur les droits de douane dans les secteurs de l'acier, l'automobile ou encore l'aérospatial. Le Royaume-Uni est le premier pays à conclure un accord depuis le déclenchement de la guerre commerciale de Donald Trump.
RFI.
Il est 1h07 à Paris. C'est un rapport accablant publié ce lundi par l'Union française des fabricants. L'association alerte sur le fléau de la contrefaçon, une source de financement incontournable pour la criminalité organisée, dénonce-t-elle. Les produits contrefaits, parfois dangereux pour la santé, représentent 2,5% du commerce mondial. Baptiste Coulon.
C'est l'activité mafieuse la plus rentable du monde. Une trentaine de réseaux criminels sont impliqués dans le trafic de contrefaçons, des cartels mexicains à la Camorra italienne en passant par le Hezbollah. Delphine Sarfati-Sobrera est la directrice générale de l'Unifab, l'Union française des fabricants.
Les produits sont fabriqués à une échelle industrielle extrêmement importante, distribués de manière très sophistiquée pour masquer l'origine réelle. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir expliquer aux consommateurs qu'aujourd'hui, acheter une contrefaçon n'est plus un acte anodin, c'est financer les crimes que l'on condamne.
La contrefaçon permet à ces réseaux de blanchir de l'argent et financer leurs propres actions. En France, elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, mais la réponse judiciaire reste trop laxiste, estime l'Unifab dans son rapport.
Ces peines sont rarement prononcées. La contrefaçon est quand même un crime qui passe un petit peu sous le radar des autorités locales par rapport à d'autres crimes. Il est en plus encouragé par les consommateurs qui achètent de la contrefaçon sans se méfier de la létalité de ces produits.
L'association plaide pour des amendes forfaitaires dressées aux consommateurs de contrefaçon. Seule façon, selon elle, de faire naître une prise de conscience.
Les explications de Baptiste Coulon. Une prime pour maintenir les seniors dans l'emploi. C'est la nouvelle proposition du Premier ministre aux partenaires sociaux. À la veille de la conclusion du conclave sur les retraites, François Bayrou soumet cette idée, verser une partie de la retraite en complément du salaire, conduisant selon lui à un meilleur équilibre financier en retardant donc le versement de la la retraite pour les seniors qui veulent continuer de travailler. Et puis, notre avenir dépend-il de la technique? La vérité est-elle toujours convaincante? Des sujets bien dans l'actualité sur lesquels ont planché les 530 000 lycéens de terminale pour la traditionnelle épreuve de philo ce lundi. Coup d'envoi des épreuves du bac cette année. Pour rappel, le candidat le plus jeune est âgé de seulement 8 ans. Merci d'écouter RFI. Il est 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel. Les programmes continuent sur la radio du monde.